Voilà, si on peut mettre le premier.
Oui, je voulais simplement déjà vous dire bonjour. Et c'est vrai que les témoignages que j'ai entendus m'ont touché, quoi. C'est vraiment formidable. Et puis je voulais dire aussi que la période de Noël, c'est une période vraiment où l'amour devrait être là, quoi. C'est une période où quand on est seul, dans l'amour, hein, sans personne. Moi, j'ai vécu des moments de solitude comme ça à Noël. C'est horrible. Ce sont des périodes difficiles. Voilà. Donc, ce matin, je vais prêcher sur l'amour. Et je voudrais qu'on puisse écouter une chanson. Alors, c'est pas une chanson chrétienne, mais je vais arriver à quelque chose de chrétien. Voilà. Alors, je voudrais vous faire écouter la chanson. C'est une chanson de Brassens. Il n'y a pas d'amour heureux, chanté par Maxime Le Forestier. Comme ça pour Noël, ça fait mal. Mais c'est vrai aussi que débuter une prédication un dimanche matin dans une église évangélique par une chanson de Georges Brassens n'est pas habituel et peut même soulever quelques interrogations parmi les fidèles, hein, c'est vrai. Donc on dirait même que cela est dérangeant. Utiliser des textes non chrétiens pour une prédication, n'est-ce pas laisser entrer les pensées du monde dans l'Église ? Alors je vous rassure, hein, les pensées du monde, nous les entendons chaque jour, nous côtoyons le monde incroyant à longueur de journée. Sauf naturellement si nous vivons au fond d'une grotte, puis vous le savez, nous sommes toutes et tous issus de ce monde. Hein, dans Jean 17, verset 15, il est marqué, le Père dit Jésus, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver de l'esprit du mal. » Voilà ce que dit Jésus. Alors je voudrais ce matin rappeler deux choses importantes afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous. La première chose, c'est que la Bible, la parole de Dieu, est et restera pour moi et avant tout, la seule et authentique référence spirituelle. Et puis la deuxième, c'est qu'une chanson populaire, à texte comme celle de Georges Brassens, eh bien, nous aide à mieux comprendre les pensées altérées du monde dans lequel nous vivons et surtout ses souffrances. Alors, le but profond du message de ce matin, justement à la veille de Noël, à la veille vraiment de ce moment de nativité, c'est de tenter de comprendre les fonctionnements de notre société afin de lui proposer une espérance nouvelle, d'avoir une écoute bienveillante, c'est cibler ses failles et ses souffrances pour lui apporter avec amour et sagesse eh bien, les grandes vérités spirituelles. Et voilà, chers frères et sœurs, le beau challenge dans lequel j'aimerais vous engager ce matin. Alors, la chanson de Georges Brassens, « S'il n'y a pas d'amour heureux », c'était tout d'abord pour lui une réflexion sur sa vie amoureuse, mais ça ne nous intéresse pas trop. Mais elle est en même temps le reflet de notre société désabusée et blessée par une existence qui ne correspond ni à ses désirs ni à ses aspirations. En effet, à part les personnes masochistes, j'espère qu'on n'en est pas, qui n'a jamais rêvé d'être heureux en fondant une belle famille ? Qui n'a jamais rêvé d'aimer et être aimé ? Qui n'a jamais rêvé de vivre en harmonie avec un conjoint ou une épouse, dans l'affection réciproque? Qui? En tout cas pas moi. Moi, j'étais pas comme ça. Pas du tout. Alors, on est à peu près d'accord. C'est vrai, notre monde aspire à l'amour et au bonheur, surtout à la veille de Noël. J'ai dit, vivre vraiment dans la solitude, c'est dur. Mais voilà qu'un célèbre chanteur populaire vient dire à ce monde clairement que c'est impossible. Il dit, il proclame haut et fort, il n'y a pas d'amour heureux. Alors, est-ce qu'il a raison et quels sont les arguments qu'il développe? Alors, lorsqu'on écoute attentivement les paroles de cette chanson, ce qu'on entend, c'est un terrible aveu d'échec. Il fait le triste constat que ce monde dans lequel nous vivons est en totale faillite d'espérance. Que l'amour qu'il produit et auquel il aspire n'est pas à la hauteur de ses attentes. Il n'est pas heureux, l'homme n'est pas heureux. Alors il commence par un constat terrible. L'homme ne maîtrise pas grand-chose. Voilà ce que dit Brassens. Jamais rien n'est acquis. Le bonheur qu'il croit posséder peut soudainement lui échapper. Le nid solide qu'il s'est laborieusement construit peut en un instant se briser. Et puis, le bonheur filant entre ses mains. Il se croit fort, il se croit inébranlable, il se croit solide, et voilà qu'une maladie soudaine, un accident grave, un divorce douloureux, hein, c'est ce qu'a rappelé Jean ce matin, eh bien le frappe et sa vie bascule en un instant, son bonheur s'écroule. David lui écrivait dans le psaume 103, au verset 15, « L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. » C'est fini. De même, dans ses faiblesses, ses souffrances, ses blessures, ses déchirures amoureuses, eh bien, l'être humain se sent accablé et se trouve souvent sans solution. Et parfois même, le sort s'acharne sur lui. Et beaucoup d'êtres humains, dans ce monde, vivent de terribles galères sans trouver la moindre oreille attentive. Le moindre geste compassionnel ou même la moindre main secourable. Vous savez, l'actualité récente nous rappelle, hélas, cette triste vérité. Alors, vous l'avez certainement entendu à la radio comme moi. Le témoignage poignant et surtout terrible de la jeune Stella qui a vu mourir sa maman sous ses yeux par les coups répétés de couteau portés par son compagnon. Et plusieurs fois, elle dit « Maman avait demandé du secours, mais personne ne l'a écouté. Personne. » Et que dire du cœur humain, ce cœur qu'il pense pouvoir parfaitement maîtriser et qui lui joue bien souvent des tours en l'entraînant vers des amours compliqués ou impossibles. Alors, vous le savez maintenant, parce que j'ai déjà témoigné devant vous, hein, comme la plupart d'entre vous, j'ai eu deux vies. Une vie avant ma conversion à Christ et une vie après ma conversion. Ce sont deux vies qui sont totalement différentes. La première est celle de ce monde et la seconde est celle en Christ. Alors, moi, quand j'étais jeune homme, qu'est-ce que je rêvais, moi ? Je rêvais de rencontrer une belle et gentille jeune fille. Voilà, c'était mon rêve, ça. Franchement, j'étais assez romantique. Et j'aspirais à une vie de couple stable, durable, en fondant une belle famille. Voilà, ça, c'était mon rêve. Alors, dites-moi pourquoi, à 18 ans, suis-je tombé éperdument amoureux d'une femme déjà mariée qui avait 10 ans de plus que moi ? C'était une totale folie. Bon, ça, j'en ai parlé à Wardia, donc c'est pas un scoop, hein. Voilà. Moi qui rêvais d'une épouse, d'une famille, eh bien, j'ai laissé mon cœur, j'ai laissé mes sentiments m'entraîner vers un amour impossible et totalement irraisonnable, qui m'a fait énormément souffrir et qui a même failli totalement me détruire. J'étais pas loin de la destruction. Et dites-moi pourquoi plus tard, alors que mon rêve, c'était toujours de me marier, me suis-je engagé dans des relations de concubinage qui ont toutes échoué, en laissant des êtres blessés et déchirés. Alors, vous savez, si je vous parle de ma vie, c'est pas pour me mettre en spectacle, hein. Au contraire, ça me rappelle des souvenirs très très douloureux. Non, si je vous parle de ma vie, c'est pour confirmer les paroles de Brassens. Il écrit « La vie de l'homme ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. » Oui, moi je pensais avoir un autre destin. Entre ce que l'on projette, ce à quoi on aspire, et ce qu'on vit réellement, il y a un total décalage. Et l'on se sent totalement désarmé. Le chemin dans lequel je voulais m'engager n'a pas été celui que mon cœur a choisi. Brassens lui parle de ces soldats désarmés à l'avenir incertain qui s'interrogent même sur l'utilité de se lever chaque matin. Il fait un constat, mais il n'en énonce pas la cause, ni n'apporte de solution. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 7, au verset 18, écrivait « Moi, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais, au contraire, ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, eh bien, en réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. » Voilà, le péché qui habite en moi. La parole de Dieu, la Bible, à travers l'apôtre Paul, dénonce clairement ce qui, dans nos vies, nous empêche de bien aimer, à savoir le péché. Alors, frères et sœurs, le péché, notre nature pécheresse. C'est pas de voler, mentir, tuer. Ça, ce sont les causes du péché. Ce sont nos péchés quotidiens. Le péché qui fait de moi un pécheur, c'est un cancer qui touche tout notre être, notre âme, notre corps, notre cœur, mais aussi nos raisonnements, nos émotions et nos sentiments. Ça touche tout. Il est inséparable de nous, car nous sommes toutes et tous nés pécheurs. Jérémie 13, 23 dit que le péché, c'est comme les taches du pelage du léopard. On ne peut pas l'enlever. Pas possible. Après avoir ciblé le péché, l'apôtre Paul fait un diagnostic assez inquiétant. Il écrit, Romains 7, 18, « Je sais que le bien n'habite pas en moi. » En disant cela, l'apôtre Paul ne dit pas que l'être humain il est incapable d'avoir de bons sentiments, hein, de faire des gestes gentils, ou même d'être sympa. Moi, quand j'étais non-chrétien, moi j'étais sympa. Il dit par là que l'être humain est incapable de faire entièrement le bien qu'il aimerait faire. C'est pas possible. Et la conclusion de l'apôtre Paul est terrible. Face au péché, il s'écrit, Romains 7, 24, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de cette mort qui est ma vie ?» Qui me délivrera ? Qui m'aidera à être heureux ? Qui enlèvera de ma vie le péché qui m'empêche d'aimer et d'être aimé ? Eh bien, beaucoup d'êtres humains sur cette terre ne sont pas heureux. Qu'ils le disent ou le taisent, leur vie amoureuse, leur existence n'est pas du tout à la hauteur de leur attente. En réalité, ils sont prisonniers du péché qui les domine. Ils sont esclaves de Satan, hein, il en a parlé tout à l'heure, Jean Meillon, de l'esprit du mal qui les pousse à mal aimer. Brassens écrit, quand il veut serrer son amour, l'être humain le broie. Vous savez, on s'engage le plus souvent dans une relation amoureuse avec de bons sentiments. C'est rare qu'on vienne avec des mauvais sentiments, hein. On ne s'engage pas pour être malheureux, mais pour être heureux. Et rendre l'autre aussi heureux. Mais force est de constater que si beaucoup d'unions commencent bien, eh bien, elle se termine souvent mal. En écrivant ce passage, hein, le jour où je l'ai écrit, j'écoute la radio, bah oui, parce que j'aime bien avoir un fond musical. Nostalgie, la chanson qui passe, dit « Comment te dire adieu ?» Ça tombe bien, ça tombe bien. L'être humain veut sincèrement aimer, mais son amour pollué par le péché l'entraîne le plus souvent vers un amour égoïste, un amour exigeant ou insatisfait, un amour irrespectueux, un amour qui s'use avec le temps, un amour qui étouffe et finit par broyer l'autre. Brassens le dit clairement, et il utilise même une image qui m'a fortement interpellé. Vous l'avez peut-être lu tout à l'heure, il chante « Quand l'être humain croit ouvrir les bras, son ombre, c'est celle d'une croix. » Dit d'une autre manière, quand l'être humain ouvre ses bras pour aimer, cela se termine toujours mal. À l'exemple de Jésus, l'amour incarné venu sur terre, hein, à Noël, par amour pour sauver les hommes qui meurent crucifiés. Ça commence bien, il vient par amour, et puis ça se termine mal parce qu'il est crucifié. Georges Brassens, comme la plupart des non-croyants ou des religieux, pense que la croix marque l'échec de Jésus. L'échec de l'amour incarné, l'amour venu en chair. Alors, vous savez quoi ? J'étais jeune, moi. Bon, ça ne se voit pas maintenant, mais j'étais jeune. Et quand j'étais jeune, j'allais tous les jeudis matin au cathé. Vous savez, au catéchisme. Mes parents me disaient, allez Daniel, tu vas au cathé. Et là, on m'expliquait, on me disait, le Sauveur, il est né à Noël. Bon déjà, je disais, il est venu sauver quoi ? Bon, ben, on m'expliquait, voilà, par amour, il est venu sauver l'homme. D'accord ? Mais personnellement, moi, dans ma jeunesse, moi, dans ce que je comprenais qu'il était venu pour sauver les hommes par amour, mais que le monde était tellement méchant qu'il l'avait crucifié. Il avait mis sur une croix, et que, justement, c'était un échec. Il n'avait pas réussi, Jésus. Il n'avait pas réussi dans son ministère. Il était venu, et il était mort sur la croix, et il avait échoué. Voilà, c'est ça que je croyais. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées humaines. Voilà ce que dit la Bible. Esaïe 55,8, « Vos pensées ne sont pas mes pensées, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » Ce que nous, êtres humains, nous voyons comme une défaite, le Sauveur cloué sur la croix, Dieu, par Jésus, en a fait une victoire retentissante. Retentissante. En effet, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18, « La prédication de la croix, de la mort du Christ sur le bois, est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Il a plu à Dieu de sacrifier son Fils unique et bien-aimé sur une croix infâme pour offrir à chaque femme, chaque homme, une vie nouvelle, une vie, un avenir heureux. » Alors, en naissant à Noël, dans une petite ville de Juda, dans une étable, Jésus, l'amour parfait et incarné, a offert au monde une triple victoire à la croix. Une victoire ferme et définitive que toute femme, tout homme peut s'approprier par la foi. La première, c'est la victoire sur le péché, mais aussi sur toutes les autorités démoniaques organisées autour de Satan. Dans Colossiens 2,14, l'apôtre Paul dit « Il a effacé, il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. » Dit plus simplement, hein, « Il a pris sur lui notre péché et l'a cloué à la croix, le rendant totalement inopérant. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais maintenant nous sommes libres en Jésus-Christ. » Amen. Amen. Colossiens 2,15. Là, sur la croix, il a désarmé toute autorité spirituelle mauvaise, tout pouvoir démoniaque, les donnant en spectacle à l'univers entier, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Dit autrement et plus simplement, en rendant le péché inopérant, il a triomphé des forces du mal qui nous tenaient prisonniers par le péché. Et puis la deuxième victoire, c'est la victoire sur la mort. 2 Timothée 1,10, notre Sauveur Jésus-Christ a brisé la puissance de la mort, et par l'Évangile, il a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Dit autrement, le salaire du péché, c'est la mort spirituelle. On est mort quand on est pécheur. Étant pécheurs, esclaves du péché, nous étions spirituellement morts devant Dieu. Mais Jésus, ayant vaincu le péché, nous pouvons renaître. Nous ne sommes plus morts spirituellement, mais vivants en Christ. Et ça change tout. Ça change tout. Et puis enfin, la dernière victoire, c'est la victoire sur le monde. Jean 16, 33. Prenez courage, dit Jésus. J'ai vaincu le monde. Dit autrement, nous faisions partie de l'humanité pécheresse. Nous étions soumis à ses principes de réflexion, à ses principes de pensée, de comportement. Mais à présent, libres du péché, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Voilà, ça change tout aussi, ça. Donc ces trois victoires changent complètement notre vie et notre existence, si vraiment nous sommes en Christ. Nos réflexions ne sont plus les mêmes, nos pensées ont changé. Notre comportement est totalement différent. Et tout cela parce que Jésus, en mourant sur la croix, nous a offert cette triple victoire que tout homme, toute femme peut s'approprier par la foi. Jean 3, 36, « Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. » Est-ce que nous avons placé notre confiance dans le Fils ? En 1986, c'est pas jeune, grâce à Dieu, j'ai enfin compris, vous rendez compte, hein, je devais avoir 27 ans, j'ai enfin compris la triple victoire de Jésus. Et là, je lui ai fait confiance par la foi, en lui ouvrant tout grand mon cœur. Et dans la Bible, Dieu s'était adressé à Jérusalem en ces termes. Jérémie 13, 27. C'est marqué « J'ai vu tes adultères et tes hennissements, tes prostitutions exécrables, tes idoles abominables. Malheur à toi, Jérusalem, jusqu'à quand resteras-tu impur ?» Alors cette notion d'impureté, ça a fait écho vraiment en moi. Je venais à Dieu chargé, mais vraiment chargé. Et comme je lui avais ouvert mon cœur, il m'a imposé, et ça c'est vrai, il m'a imposé une purification qui a duré pour moi 3 ans. 3 ans, vous vous rendez compte? À tous ceux qui ne perçoivent pas le poids du péché, ce que ça représente vraiment le péché, son action corrosive, sa souillure, eh bien imaginez-vous, vous, trempant dans un bain pendant 3 ans, nuit et jour. Et Dieu m'a lavé, il m'a nettoyé, comme d'ailleurs il l'avait fait pour David. Psaume 51, versets 9 à 12. « Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc même que la neige. Fais que j'entende à nouveau les cris de joie et d'allégresse. Ne regarde plus mes fautes, tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, fais naître en moi un esprit bien disposé. » Et c'est ce qu'il a fait, Dieu, en moi. À présent, il y avait dans mon cœur une telle confiance, une telle assurance, que je n'avais plus peur de m'engager, de me marier. Avant, c'était une terreur de me marier. J'avais peur, je me suis dit, si je m'engage, il y aura forcément un divorce au bout. Alors j'ai demandé, oui, c'était pas joué, hein. Alors j'ai demandé à Dieu qu'il me donne Wardia pour épouse, et il me l'a donné. Deutéronome 30, verset 9, « L'Éternel, votre Dieu, vous comblera de bonheur en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Il vous donnera de nombreux enfants et multipliera vos biens, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à votre bonheur, pourvu que vous l'écoutiez en obéissant à ses commandements, consignés dans le livre de la loi. » Alors, chers frères et sœurs, Dieu est bon avec son peuple, le peuple de Dieu. Moi qui ne pensais jamais me marier, il m'a donné une épouse. Je ne pensais plus avoir d'enfants. Franchement, je me suis dit, j'en aurais pas. Hein? Il m'en a donné 3 filles. Bon, c'est des filles, mais c'est bien. Non, parce que dans la famille, on rigole après moi parce qu'on dit, oui, c'est vrai, t'as pas eu de garçon. Bah oui, bah, mais 3 filles, c'est bien. Et il nous a bénis malgré les nombreuses épreuves que nous avons traversées avec Wardia et les filles. On a traversé de nombreuses épreuves, mais il nous a bénis. Georges Brassens, en s'arrêtant à l'échec de Jésus à la croix, lui, il n'a pas pu accéder à l'amour heureux que propose Dieu en Jésus-Christ. Cet amour heureux qui s'écrit en 5 principes. Le premier principe, c'est ce qu'a rappelé Jean ce matin. Ben, je leur dis les mêmes choses que Jean, quoi. Dieu au centre de ma vie. Dieu au centre. Auparavant, moi, je vivais pour moi. J'étais égocentrique. Je n'avais aucune considération pour Dieu. J'aimais les autres en fonction de ce qu'ils m'apportaient. Je suivais les penchants de mon cœur pécheur. Mais aujourd'hui, c'est différent. J'ai repris à mon compte la belle phrase de Paul, Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est donc plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Voilà comment je vis. En offrant mon cœur à Dieu, j'ai accepté que Christ prenne la place de mon égo roi et soit le maître et le seigneur de ma vie. Alors, le meilleur exemple que je puisse donner de cette... Non, allez, c'est pas encore ton moment. De l'égo roi, c'est, non parce que je vais parler de Wardia après, de l'égo roi, c'est la conduite accompagnée avec ma fille Solène. Vous savez, il y a un moment, vous êtes maître de votre voiture, vous conduisez, et puis quand vous faites la conduite accompagnée, ben, vous êtes obligé de vous mettre sur le siège à côté, et puis de laisser votre fille conduire. Et là, Solène, elle me dit, « Papa, pourquoi tu t'accroches si fort à la porte ?» Bah, je dis, « Solène, ça fait confiance, mais tu sais, je trouve que tu es très près du trottoir. » Tu vois, c'est, je trouve que... Et là, je suis malade, quoi, bon. Mais j'accepte de conduire avec Solène parce que c'est ma fille. Et parce que, vraiment, j'ai confiance en elle, et puis finalement, elle conduit bien. Pourquoi je remets ma vie à Jésus? Parce que Jésus, il est mort pour moi à ma place. Sinon, j'ai aucune raison de lui confier ma vie. Voilà. Pensez, le jour où vous voulez remettre votre vie à Jésus, à la conduite accompagnée. Le deuxième principe, Dieu au centre de mon couple. C'est pour ça que c'est important d'avoir, d'être deux chrétiens. Jean 10, 30, « Moi et le Père, dit Jésus, nous sommes un. » Moi et le Père, dit Jésus, nous sommes un. C'est cette unité spirituelle et physique que Dieu veut pour le couple. Jean 17, 22, « Qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. » Cette unité s'écrit dans une relation homme-femme de durée infinie, pour ne pas dire éternelle. C'est le mariage. Genèse 2, 24, « L'homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. » Alors, quand les responsables d'église encouragent les futurs mariés à prendre des époux ou des épouses chrétiennes, on trouve cela ringard ou des fois totalement intolérant. De quoi ils se mêlent? Mais c'est très important pour l'unité chrétienne dans le couple et c'est un facteur de réussite. Cela permet de mettre Dieu au centre de toute décision, d'exercer le pardon, parce que des fois les non-chrétiens ne comprennent même pas comment on peut pardonner, de pouvoir prier ensemble, d'accueillir, d'accomplir un ministère, de donner une éducation chrétienne aux enfants. Tout cela contribue à l'harmonie du couple, à une vie bénie par Dieu et à une relation heureuse. Frères, sœurs, les relations conjugales sont rarement un long fleuve tranquille. Et moi, je suis en suis le témoin. Pourquoi les compliquer encore par une séparation spirituelle? Le troisième principe, c'est Dieu qui construit le couple. C'est lui. Dans le psaume 127, le sage Salomon, qu'est-ce qu'il écrit? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Bâtir le couple qui est l'Église de Dieu, faire ce qui est marqué dans Matthieu 18, 20. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On est deux dans le couple, il me semble. C'est la plus simple expression de l'Église. Bâtir le couple, c'est l'affaire exclusive de Dieu. C'est lui qui construit le couple. Et la Bible donne une belle image, c'est celle du potier qui travaille l'argile et la façonne pour en faire un beau vase. C'est lui qui fait le vase. Dieu est créateur. Si le couple lui est soumis, il le crée et le bâtit selon sa juste volonté. Il le bâtit comme une maison, il malaxe le couple comme l'argile pour en faire un vase d'honneur de grande valeur. Alors, le plus grand combat du chrétien et du couple, c'est de faire confiance à Dieu. C'est ça qui est difficile. Ça, c'est le plus dur. Le laisser construire et ne pas chercher à reprendre les rênes de sa vie. Mais cela, c'est tout à fait contraire à tout ce que l'on nous a enseigné dans ce monde, où il faut faire pour être. Voilà, il faut faire pour être. Parce que, en fait, faire, ça nous sécurise. Quand on fait, on maîtrise, on sait où on va. Mais quand Dieu construit, eh bien, on est spectateur des œuvres de Dieu. Mais bien souvent, cela crée en nous un profond sentiment d'inutilité. Ou même, on se considère comme paresseux. On ne fait rien. Dans le livre des Proverbes, il est écrit, Proverbe 24, 30, « Je suis passé près du champ d'un paresseux. Et voici, des épines y croissaient partout. » Les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. Un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur. Est-ce que c'est ça que nous, on vit dans la vie chrétienne? Quand on laisse Dieu construire le couple, il ne s'appauvrit pas, mais il s'enrichit. Psaume 128, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Le quatrième principe, alors ça, l'homme responsable devant Dieu. Pour toutes celles et ceux qui ne supportent pas d'être spectateurs de l'action de Dieu dans l'être humain ou le couple, Dieu a offert à l'homme d'être responsable de ce qu'il a bâti et lui a confié. Genèse 2,15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Garder l'amour, cultiver l'amour. Vous le voyez, Dieu bâtit un jardin magnifique. Il le construit avec amour et il demande à l'homme d'y travailler pour l'entretenir, pour le cultiver et pour le garder. C'est la fonction qu'il lui donne. Vous voyez le parallèle entre le jardin, notre vie, notre couple. 1 Corinthiens 3,9, nous sommes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, dit l'apôtre Paul. Alors nous sommes toutes et tous les gardiens, les responsables du champ de nos vies. Du jardin de notre couple, on en est responsable. Nous en répondrons chacun, chacune devant Dieu. Moi, quand on va passer devant Dieu, il va me dire, Daniel, qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ton couple? Qu'est-ce que tu en as fait? Personnellement, j'en suis parfaitement conscient pour ma vie et pour mon couple. Et c'est là que je vais parler de Wardia. Je me suis engagé dans le mariage, moi, grâce à Dieu. Grâce à lui, sinon je me serais jamais marié. Et par la grâce de Dieu, pour moi, Wardia, avant d'être mon épouse, c'est une princesse. C'est vrai, c'est une princesse. C'est pas ma princesse, c'est une princesse. Pourquoi c'est une princesse? Parce qu'elle est fille du roi des cieux. Elle est fille de roi. Une princesse, ça a du caractère. Mais en prince aussi, ça a du caractère. Et des fois, ça pète. C'est pas toujours facile à gérer, un caractère de princesse. Mais vous savez, moi, Wardia, je l'ai demandé à Dieu, son père, et j'en suis responsable devant lui. Parce que c'est lui qui m'a accordé sa main. Si je la maltraite ou si je la néglige, si je ne la respecte pas et ne la protège pas, mais j'aurai des comptes à rendre à qui? À Dieu, à son Père, à son Père céleste, c'est à lui que j'aurai des comptes à rendre. Frères, sœurs, dans nos milieux évangéliques, nous fonctionnons souvent avec de fausses croyances. Moi, je vous en cite deux, il y en a des centaines. La première, lorsque l'on est enfant de Dieu, il ne peut rien nous arriver du tout. Dieu ne veut pas qu'on soit malade, Dieu ne veut pas qu'on souffre, Dieu ne veut pas qu'on divorce. Voilà. Alors des chrétiens sont malades, des chrétiens souffrent et des chrétiens se séparent. La deuxième fausse croyance, Luc 14,26, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à lui-même, il ne peut pas être mon disciple. Mal comprise, mal interprétée, cette phrase peut conduire à la catastrophe. Certains comprennent que si l'on veut être digne de Jésus, il faut être prêt jusqu'à aller sacrifier sa famille, son épouse, son couple. Ouais, j'étais jeune chrétien, je travaillais comme kiné à Flavigny, et il y avait dans mon établissement, qui était un centre pour handicapés, il y avait deux enfants handicapés, et les parents étaient missionnaires, et ils les avaient laissés là, à Flavigny, et ils ne s'en occupaient pas. Ils ne leur apportaient pas d'habits, rien du tout, c'était les aides-soignantes qui étaient obligées d'acheter des habits, etc. Ils étaient complètement délaissés. Et moi, je me souviens, je n'osais même pas dire que j'étais chrétien évangélique, quoi. J'avais honte, parce que je disais, si je dis que je suis chrétien évangélique, on va me dire, ouais, tu fais partie de ceux qui délaissent leur famille. Des pasteurs, des anciens, des membres d'église privilégient leur ministère, les activités d'église, en négligeant ou en délaissant leur couple ou leur famille. L'apôtre Paul écrivait, 1 Timothée 5,8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Mettre Jésus au centre, c'est prendre soin des siens. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. On peut s'investir dans l'Église, on peut vraiment s'investir en tant que pasteur ou missionnaire, mais sans oublier les siens. Et cinquième et dernier principe, c'est être reconnaissant. Voilà, être reconnaissant. Colossiens 3,16, en toute chose, exprimez votre reconnaissance à Dieu. Dans la vie chrétienne, il y a forcément des choses qui ne vont pas. Vous savez, c'est la bouteille à moitié vide. Alors on va dire, Dieu ne m'a pas donné, l'Église n'a pas fait, où est le pasteur hein. Je connais ça, je souffre. C'est ça l'insatisfaction. On est insatisfait de notre vie chrétienne. Mais on peut avoir une autre vision de la bouteille, la voir à moitié pleine. C'est la satisfaction. Je vois toutes les bénédictions que Dieu fait dans ma vie, parce qu'il y en a. Même ceux et celles que je ne vois pas, je m'en réjouis. Je vois en priorité tous les bons côtés de la vie avec Dieu. Alors lorsqu'on est satisfait, on peut être reconnaissant, reconnaître que Dieu est à l'origine de tout, maîtrise tout et veut me rendre heureux, mais aussi lui dire merci de penser à moi chaque jour, chaque matin, dans le but de me faire du bien. Merci Seigneur, merci pour tes bienfaits. Alors, je vais vous donner un petit témoignage de... Là, ça, j'en ai jamais parlé à Wardia. J'étais tout jeune chrétien, je priais ardemment pour que Dieu me donne Wardia pour épouse. Et un jour, j'ai dit à Dieu, « Seigneur, si tu me donnes Wardia... » J'étais jeune, hein, j'étais jeune. « Seigneur, je suis prêt à aller à Moyève-Grande, à pied, hein, ça fait quand même 90 kilomètres, pour aller demander sa main à ses parents. » J'étais fou, mais c'est dire combien j'y tenais, quoi. Vous voyez ? 30 ans plus tard, quand Wardia me dit « On pourrait aller à Moyève-Grande pour aller voir mes parents ?» Je dis « Oh, ça fait un peu loin. » Et j'ai au fond de moi une petite voix qui me dit « Eh Daniel, hein, t'étais prêt à y aller à pied et maintenant t'es même plus prêt à y aller en voiture ?» À chaque fois que nous avons des conflits avec Wardia, moi ça m'énerve, quoi, parce que des fois je ne comprends pas. Mais à chaque fois je dis « Seigneur, merci de me l'avoir donné. Merci Seigneur. » Georges Brassens chantait « Il n'y a pas d'amour heureux ». Mais Brassens n'a pas perçu la triple victoire de Jésus. Brassens n'a jamais mis officiellement Christ au centre de sa vie. Brassens, lui, n'a pas mis Dieu au centre de son amour conjugal. Frères, sœurs, un amour heureux, un amour conjugal qui dure, qui jamais ne se finit, un amour qui, avec le temps, mûrit et s'épanouit, est à la portée de toutes celles et ceux qui mettent leur confiance et leur espérance en Dieu seul. L'avez-vous fait ? Et voulez-vous le faire ? Alors, moi, je vous remercie ce matin pour votre écoute attentive. Et je reste à votre disposition pour discuter sur la prédication qui mériterait qu'on aille à la fois beaucoup plus loin et plus en profondeur. Amen. Voilà. Je vais prier, si vous voulez. Seigneur, moi, je voudrais encore ce matin, à cette veille de Noël, vraiment reconnaître cette lumière, cet amour qui est venu dans le monde pour éclairer chaque homme, chaque femme et pour apporter un amour infini. Seigneur, aide-nous chacun, chacune à nous saisir de cet amour parce qu'il est à notre disposition. Par la foi, merci Seigneur de nous accompagner, de nous guider. Merci pour tous ceux et toutes celles qui cherchent encore cet amour et qui veulent, Seigneur, à la veille de ta nativité, Seigneur, du rappel de ta nativité, vraiment être heureux pour Noël. Merci, Seigneur, de nous aider à prendre les bonnes décisions avec toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Amen.